Radicaux Libres. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont les derniers opus de la saison précédente sont disponibles dans la page de l'émission Radicaux Libres sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler cette semaine de la loi Duplomb qui a défrayé la chronique pendant l'été. Voyez plutôt depuis le 10 juillet sa mise en ligne sur le site de l'Assemblée nationale où 577 députés sont censés nous représenter. La pétition pour l'ouverture d'un débat sur la loi Duplomb a recueilli 2 127 745 signatures. On peut signer jusqu'au 17 juillet 2026. Comme cette pétition a obtenu plus de 500 000 signatures, il doit y avoir un débat, sans vote, sur le sujet à l'Assemblée nationale. Quand ? Ben on attend. Et pendant ce temps-là, les lobbies de l'agriculture productiviste travaillent. Les populations sont présentes dans les médias et continuent à distiller l'argument massu de la compétitivité économique. Tout se justifie par notre insertion dans le marché mondial, même l'aspersion de produits connus comme dangereux pour l'ensemble du vivant sur des betteraves et des noisettes qu'on consommera ensuite. On aurait pu vous parler de l'Allumette, le centre social autogéré situé dans le quartier de Pontlieu. Pas facile d'accès en ce moment. Mais elle est là, l'Allumette, au 7 rue de la Marne, fidèle au poste. En ce mois de septembre, vous pouvez retrouver l'équipe, participer et pourquoi pas proposer. Par exemple, tous les mercredis et samedis, pour les auditeurs du direct, c'est aujourd'hui samedi, de 14h à 19h, l'Allumette est ouverte à tout le monde pour boire un coup, discuter, cuisiner, laver son linge, emprunter des livres à la bibliothèque, utiliser la salle informatique, lire, jouer à des jeux de société, être accompagné sur des démarches administratives. Ensuite, il y a tout un calendrier avec des activités diverses et variées. Et de fait, c'est quand même intéressant que ce centre social autogéré puisse continuer son activité. Simplement, il a des petits soucis, en l'occurrence des soucis d'argent. Le social, ça rapporte pas des masses. Pour que tout cela perdure, il faut donc du pognon. Donc l'Allumette est à la recherche de 2500 balles avant la fin de l'année 2025. Alors si c'était une assaut de fachos, il suffirait de faire un dossier chez Sterrin ou Bolloré. Puis là, il y aurait de la sub. Mais c'est pas le cas. Et j'irais même jusqu'à dire au contraire. Comme tous ceux qui défendent la sociale, il n'y a pas de milliardaires en quête de sainteté, et c'est tant mieux. C'est pourquoi notre solidarité est la seule chose qui prévaut. Aussi, une cagnotte est présente sur helloasso.com. Sur helloasso.com, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans la barre de recherche et vous tapez Solidarité Sarthe. Pas attaché, hein. Solidarité et puis Sarthe. Et la première page qui sort, c'est celle justement de la Solidarité Interassociative Sarthe. C'est l'Allumette. Solidarité Sarthe dans la barre de recherche de helloasso.com. Et puis là, on peut donner un petit peu de sous. De fait, l'Allumette a besoin de contributeurs mensuels qui lâchent un peu de thunes chaque mois pour assurer les dépenses courantes. Renseignez-vous sur le sujet à l'allumettelefeu@libremail.net. On aurait pu vous parler des peuples en lutte, par exemple les Israéliens qui toutes les semaines et plusieurs fois cette semaine à l'approche du deuxième anniversaire du 7 octobre battent le pavé pour arrêter la guerre éternelle voulue par l'extrême droite religieuse israélienne et par les suprémacistes juifs qui sont au pouvoir, alliés à la droite. Ouais, alors en ce moment, les associations extrême droite-droite qui sont somme toute malgré tout naturelles. Quand on est à droite par exemple en France, comme un certain Nicolas Sarkozy, on n'a aucun problème avec l'extrême droite. Quand on est d'extrême droite, on n'a aucun problème non plus avec la droite. Pourquoi ? Tout ce beau monde est libéral en économie. Donc tant qu'il y a du pognon à se faire, il n'y a pas de souci. Donc le Likoud, la droite israélienne, est associée à des suprémacistes juifs, notamment l'extrême droite religieuse. Et c'est pour ça qu'ils ont envie de faire la guerre pour toujours. Pour mieux comprendre ce qui anime Benjamin Netanyahou, je vous conseille de voir The Bibi Files, un documentaire sur les procès en corruption que risque l'actuel Premier ministre israélien si la guerre s'arrête. On peut également parler des Serbes qui luttent contre la corruption, décidément, qui a amené à l'effondrement d'une partie de la gare de Novi Sad en novembre 2024 et qui manifeste régulièrement, comme le lundi 1er septembre, où des dizaines de milliers d'habitants ont encore réclamé des élections anticipées pour se débarrasser des dirigeants corrompus au pouvoir. Les Argentins également, qui manifestent toujours contre la politique de Milei, tellement appréciée par les libéraux européens et pas appréciée par la population. Et dont la sœur de Milei, qui est secrétaire générale de la présidence, on fait des trucs en famille, et soupçonné de corruption au profit de boîtes pharmaceutiques. On aurait pu vous parler des Indonésiens, qui n'en peuvent plus d'entretenir des représentants qui se gavent littéralement. Les députés touchent une indemnité équivalente à 10 fois le salaire moyen. En France, c'est 3 fois. Ça va ? Je sais pas. Équivalente à 10 fois le salaire moyen. Et en plus, l'annonce d'une hausse de leur indemnité logement à ses députés a mis le feu aux poudres. Dans tous ces pays, le point commun est l'agenda des soi-disant représentants qui s'enrichissent par tous les moyens quand ils sont au pouvoir. Et l'agenda des populations qui veulent simplement s'assurer une vie. Manger, dormir, enfin voilà quoi, un peu de sécurité à la pyramide de Maslow. Hein, mais pas devenir calife à la place du calife, le plus riche du cimetière. Ah ouais, ça c'est l'agenda de nos soi-disant représentants. Nos pays développés ont un cruel problème. Ils sont sous le joug de l'économisme. J'ai l'impression qu'on va en reparler. Une forme d'organisation de la production de richesses des plus riches, pour les plus riches et par les plus riches. Chez ceux qu'on appelle encore les peuples premiers, ce n'est pas le cas. Par exemple, une certaine Lucy Philip Mair, une anthropologue britannique, née en 1901 et morte depuis, écrit en 1934 à propos des Banga, un peuple d'Afrique de l'Est, de l'Ouganda actuel, « La misère ne peut exister puisque quiconque a besoin d'assistance la reçoit sans condition ». Eh ouais, à méditer quand on élit un représentant dans les pays développés. Sans aucune transition, on aurait pu vous parler du premier ministre béarnais du 21e siècle de la France. Ce dernier a proposé que la confiance lui soit accordée le 8 septembre par l'Assemblée nationale. Il semble qu'il n'a pas trop réussi à mobiliser ses troupes et même le PS devrait voter contre la confiance. Pour vous dire, cette annonce de la fin août a mis en joie les chaînes d'infos en continu qui ont pu inviter les uns pour les contre, disserter, tout ce beau monde ayant à disserter à foison sur le sujet jusqu'à la dernière minute. Le 26 août, sur France Inter, un certain Patrice Mignola, ministre des Relations avec le Parlement, était invité. Pour vous le présenter, Patrice Mignola est un pur produit de la démocratie représentative. Après Sciences Po, il intègre directement les cabinets de plusieurs ministres de l'UDF, l'ancêtre du Modem. Ah ben le Modem, c'est le parti qu'a créé François Bayrou en 2007. En allant vite. Il travaille pour l'UDF et il devient élu. Ce quinca est un élu professionnel qui n'aura jamais bossé de sa vie et qui côtoie maintenant les sommets du pouvoir. Ça y est, les ministres. Quand on pense la politique comme une carrière, le mélange des genres devient du quotidien. Ce 26 août, les journalistes de la radio d'État interrogent le ministre Mignola sur la pérennité du gouvernement auquel il participe. Alors attention, c'est gratiné et il faut dire que il a des antécédents, le Mignola. Jamais bossé de sa vie.
Il ne s'agit pas de savoir si François Bayrou va durer ou pas durer.
Oh, un peu quand même, c'est la question qui se pose ce matin.
Non, mais tout le monde veut transformer ça en une question politique. Alors qu'au fond, on a posé une question budgétaire, une question économique. Le sujet, ce n'est pas notre sort, ce n'est pas de savoir si François Bayrou...
Alors, donc, le choix économique, la façon dont est organisée l'économie, ce n'est pas du tout politique. Donner des garanties au CSP+, voire plus, sur l'absence d'impôts supplémentaires, tout en exploitant toujours plus le reste des ressources humaines, les ressources humaines populaires, ne serait pas un choix politique. Allons bon, réduire toujours plus les dépenses pour toute la population parce qu'il ne faut pas taxer les plus riches pour rééquilibrer les richesses et accroître les recettes de l'État, ce n'est pas un choix politique. Aparté, le Conseil d'analyse économique, un organisme attaché au Premier ministre, dont je ne crois pas qu'il soit gangréné par la gauche. Non, quand je parle de la gauche, je ne parle pas des militants de place publique ou des libéraux du PS. Donc ce Conseil d'analyse économique a pondu une note qu'eux appellent un focus. Ça s'est fait fin juillet 2025, oui, en plein milieu des vacances. Que les médias ont déterré début septembre, c'est heureux. Un focus sur l'exil fiscal. Nos soi-disant représentants sont nombreux à faire peur au Pékin moyen avec l'exil des pétés de thunes qui conduirait la France vers l'abîme si l'impôt sur les grandes fortunes aboli par le mauvais acteur mais vrai banquier en 2017, était rétabli, par exemple, ou que tout autre impôt touchant les plus fortunés était mis en place. Les experts en baratin libéral qui peuplent les plateaux de talk show répètent l'assertion à l'envi pour continuer à être invités par les milliardaires qui possèdent les plateaux en question. Si vous mettez un impôt, mais ils vont s'en aller. C'est pas vrai. C'est pas vrai, en tout cas d'après la note du Conseil d'analyse économique qui, je vous le rappelle, est attaché au Premier ministre. D'après le document de 32 pages écrit petit qui constate et compare par exemple avec la Suède, on conclut, quand je dis on, ce sont les auteurs, qui émargent à l'ESSEC Business School, la Paris School of Economics, la London School of Economics, j'en passais du pire. Ces auteurs affirment que la fiscalité du patrimoine joue à la marge, de la marge, pour les plus fortunés, qui n'ont donc pas tous des réflexes de fuite à la Bernard Arnault ou à la Pierre-Édouard Sterrin. Si on en croit les auteurs de ce focus, les spécialistes autoproclamés qui claironnent sur tous les tons que les rupins déguerpiraient au Luxembourg ou à Monaco pour échapper à de nouveaux impôts sont tout simplement des menteurs. Bon, bah, quand vous les écouterez, vous le saurez. Continuez à arroser les entreprises de manière indiscriminée à coups de subventions pour M. Mignola, alors que les promesses de création d'emplois ne sont pas du tout, c'est pas un choix politique. Alors, bah, quand il voit, lui, dans les propositions de François Bayrou, de simples questions économiques, il ne sait pas que l'économie, normalement, est insérée dans une sphère plus large qu'on appelle la sphère sociale et qui, de fait, est liée à la façon dont on va organiser la société. C'est ça l'économie, organiser la société. Ben non, pour lui, c'est l'économie qui s'impose. Faut dire qu'il est libéral. Avec ce genre de déclaration, on est en droit de se demander ce qui est politique pour Patrice Mignola. L'économie qui s'impose ? Ah oui, mais laquelle ? On ne joue pas avec l'économie, a dit Patrice Martin lors de l'ouverture de l'université d'été du syndicat d'employeurs, le MEDEF. Ça se passait le 27 août 2025 à Roland-Garros. Ils s'envoyaient des balles. Mais avec quelle économie ? On ne doit pas jouer. Ah ben l'ennui quand l'économie est convoquée dans les médias, c'est qu'on limite cette activité à l'économie capitaliste basée sur la philosophie libérale. Et rien ne vient préciser le type d'économie dont il est question. Aussi, on entend des dizaines, des centaines, des milliers de fois le mot « économie » associé à la fonction de consommateur du Pékin moyen. C'est tout, t'es qu'un consommateur, c'est ça le but. Dans l'économie, tu as cette place, mon Pékin moyen. Alors vas-y, bosse. Oui, bosse pour avoir du pognon, pour faire quoi ? Ben pour acheter, mais pour acheter quoi ? Ben des trucs, achète, dépense. C'est le but, les ressources humaines sont là pour produire et consommer les productions. Eh ben croyez-moi, ça laisse des traces de l'entendre des dizaines, des centaines, des milliers de fois. Un certain Pierre Gattaz, qui fut président du syndicat patronal, comme papa, le MEDEF, entre 2013 et 2018, du temps de papa c'était le CNPF, il a donné une interview au journal Le Point. C'est titré, je cite, Pierre Gattaz. Je suis atterré par le manque de connaissances économiques de base de LFI. En effet, à LFI, personne ne ferait d'optimisation fiscale comme Pierre Gattaz le fait pour Radial, la boîte qu'il dirige. Mais de quelles connaissances économiques de base parle-t-il ? Le mystère reste entier. Heureusement, dans cette France qui a peur, et tout est fait pour que cette peur perdure, des experts, dont c'est vraiment le métier, phosphore sur nos pratiques. Par exemple, Pascal Ebel du cabinet CEWES, spécialisée dans l'étude de la consommation des ménages. Elle est directrice de la prospective. Ouh, elle constate le présent à partir de données du passé pour prédire l'avenir. C'est pas beau ça ? Le 27 août 2025, elle était sur France Info, encore, oui, pour nous expliquer l'atonie de la consommation, ce qui est un problème dans une société basée sur la consommation.
Oui, il y a vraiment une contrainte, hein, il y a vraiment des inégalités, donc déjà, il y a des gens qui, 30% des Français qui ont du mal à arriver à acheter de quoi manger, ils sont en insécurité alimentaire, donc on sait que le 15 du mois, on commence à avoir des comptes négatifs pour une partie de plus en plus importante de la population, qui font que, en effet, si on a un petit peu d'épargne, eh bien peut-être qu'on va garder du liquide chez soi et qu'on va finalement moins consommer aussi. Plus on est inquiet, moins on consomme.
Ah ouais. Donc nous voilà donc mieux renseignés sur l'économie dont nous repattent les oreilles nos soi-disant représentants, c'est celle de la consommation. Nous devons gagner notre vie pour acheter des trucs, mais voilà, le 15 du mois c'est déjà dur pour une partie de la population. L'INSEE, qui produit la statistique officielle en France, nous informe que le taux de pauvreté est en hausse constante et qu'il atteint en 2023 15,4% de la population. On pourrait estimer qu'il est plutôt du côté de 16, une personne sur 6 actuellement. Madame Ebel rappelle le taux de 30% de la population française qui saute régulièrement à un repas, pas pour avoir un summer body, mais par manque d'argent. Alors les pauvres ne font pas assez fonctionner l'économie dont il est question, ils ne consomment pas assez et ça stagne. Le journaliste ne la reprend pas sur l'histoire des pauvres, hein. Non, c'est pas le sujet du moment. Mais il profite de son expertise économique à Madame Ebel, en économie qui ne dit pas son nom. Et là, il lui pose une question.
Allez, retournons écouter aussi des chefs d'entreprise, parce que c'est les deux jambes, hein, de l'économie, consommation, production, d'une certaine manière, et là nous sommes...
D'accord, l'économie dont on nous parle, c'est consommation, production. Le sens de ces actions est laissé de côté. Hein. Non, consomme, produit. Te pose pas de questions, consomme et produit. C'est pas le moment, c'est pas le sujet. Produire, consommer, voilà ce qui nous importe. Et voilà ce qu'on nous rabâche, des dizaines, des centaines, des milliers de fois. Et comme qui dirait, ça laisse des traces. Tout est au présent de l'indicatif, hein. C'est comme ça. C'est tout. Revenons à l'expertise. Puisque la prospective, ça connaît Madame Ebel, eh bien, elle en est quand même la directrice chez CEWES. Allons lui redonner la parole.
En fait, c'est ce qui s'est passé l'année dernière. C'est-à-dire qu'on va rester pendant plusieurs mois. Si on doit changer de ministre, on va avoir des entreprises qui sont attentistes aussi. Et c'est souvent ça, hein, qui ralentit l'économie, puisque on va réduire les embauches, on va faire moins d'investissements. On attend de savoir quel va être le budget 2026. Et donc, est-ce qu'on va enlever des subventions? Est-ce qu'on va faire des coupes auprès des entreprises ou plutôt auprès des foyers?
Mais cette économie-là, moi, je comprends toujours pas quel est son intérêt, quel est son but. Il y aurait de l'attentisme de la part de ceux qui produisent, c'est-à-dire ce qu'ils produisent, on peut attendre avant de le consommer. Ça veut dire qu'on n'en a pas vraiment besoin. Moi, je me pose une petite question. De la même manière, il faut produire, mais produire quoi? Pour qui? Quand? On aurait des primes à la casse, vous imaginez? L'État donne des primes pour qu'on balance sa bagnole, pour qu'on en achète une autre. On a la mode aussi, qui est une prime à la casse déguisée. Maintenant que tu t'habilles comme ça, eh ben n'oublie pas que t'es un loser parce que maintenant on se doit s'habiller comme ça. Il y a des articles plein les médias, plein les internets sur le sujet de maintenant la coiffure à la mode c'est celle-là, maintenant la fringue à la mode c'est celle-là, maintenant l'accessoire à la mode c'est celui-là. Eh bien, tout ça, cette économie n'a aucun rapport avec l'utilisation raisonnée des ressources, ce qui est la base, n'en déplaise à M. Gattaz, de l'activité économique. Une activité qui ne se réduit pas à l'accumulation de profits. Un auteur l'a très bien expliqué, un certain Karl Polanyi, historien, anthropologue et économiste du XXe siècle. Il naît au XIXe en 1886 et il meurt en 1964. Après avoir écrit une somme intitulée « La grande transformation » où il décrit le passage de la vision utilitariste des libéraux de l'économie par la mise en place de marchés. Ah, Hobbes, ah, Smith, vous avez fait beaucoup de mal à l'humanité. La marchandisation des hommes, la marchandisation de la nature, ce ne sont pas des nouveautés. Non, les libéraux l'ont entamé dès la fin du XVIIIe siècle. Et ils en ont fait un marché carrément au XIXe. Pour eux, tout s'achète. Tout se vend. Et nous voilà avec des fondus comme Trump ou Macron à la tête des États qui, je vous le rappelle, ne sont que des marchands de tapis. En 1947, Karl Polanyi fait paraître « La mentalité du marché est obsolète » dont on voulait vous lire un extrait, mais on ne va pas avoir le temps. Mais vous inquiétez pas. On le fera. Pour lui, l'économisme, pour Karl Polanyi, l'économisme, c'est-à-dire cette place de l'économie dans la société, eh bien, est trop importante et même totalement décorrélée de l'activité sociale. Elle est autonome. Une économie autonome, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt pour la société, mais ça doit sûrement avoir un intérêt pour ceux qui produisent et accumulent du profit. C'est pour ça qu'on parle d'agenda différent entre ceux qui sont censés nous représenter et qui ont finalement le pouvoir politique et économique. Et puis, ben, nous. Nous qui avons une vie à faire, tout simplement, le but étant d'être heureux. Ouais, alors, bah, du coup, ça leur dit rien à ceux qui sont censés nous représenter. À l'occasion du raout des représentants de France, des entrepreneurs de France, pardon, des chefs d'entreprise ont été interviewés par les médias. Et par exemple, le patron de WeCare, qui est très connu dans le coin, oui, O2, ouais, ouais, ils réussissent à mettre du bleu, mais du bleu, hein, dans le vieux Mans. Ça, c'est pas donné à tout le monde.
Garder la tête froide, maintenir le cap, telles sont les priorités actuellement de Guillaume Richard. Mais le président de WeCare, groupe de services à la personne qui compte 20 000 salariés en France, se dit tout de même préoccupé.
Si l'économie française, de façon générale, va pas bien, notre entreprise, elle ne peut pas aller bien.
Or, l'instabilité politique guette et risque d'impacter l'économie, déjà dans une situation délicate, et qui dit incertitude, dit potentiel ralentissement de la consommation et donc baisse de certaines de ses activités.
Sur les services de la vie quotidienne, la garde d'enfants, le jardinage, le ménage, nos clients peuvent arbitrer et faire le choix d'économiser plutôt que de consommer.
Quelle est l'activité de ce personnage? Dans quelle société on sous-traite ce qui fait la vie? S'occuper de sa progéniture, s'occuper de tenir propre l'endroit où l'on vit, cultiver son jardin, au sens propre comme au sens figuré. Tout ça pour vendre son temps à des activités rémunératrices. Eh bien, qui a bien pu organiser ça et en faire la référence? Je vous propose de réécouter le début de cette émission pour avoir un élément de réponse. On aurait pu vous parler du 10 septembre, de Hérouville-Saint-Clair près de Caen, à Grenoble, de Brest à Aubenas, en passant par Tulle et Le Mans. Oui, le vendredi 29 août, une centaine de personnes étaient réunies sur le parking des Jacobins. Bon, comme d'habitude pour Ouest France, il est fantastique lui. Hein. Ils étaient 50. Eh voilà, c'est ce qu'il a écrit en tout cas. Hein. Je ne sais pas comment s'appelle le journaliste. La journaliste de Ici Même en a annoncé 80, un petit 20% de moins. Pourquoi? Qu'est-ce qui les motive? J'en sais rien. Des rendez-vous de préparation réunissent du Pékin moyen en dehors des circuits officiels dans toute la France. N'en déplaise à ceux qui veulent nous faire croire que tout ce beau monde prépare des attentats islamo-gauchistes. En application du slogan « C'est pas dans les salons qu'on obtiendra satisfaction », ces gens ont décidé de se réunir pour s'organiser et tout bloquer. Eh ben oui, parce que Tout bloqué, ça se prépare. Dans l'an 1, la BD de GB, adaptée en film, des répétitions avaient eu lieu avant la vraie journée où on arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste. Depuis que ça a été annoncé, eh bien, l'État et ses relais sont à l'offensive. Cette semaine, par exemple, une note confidentielle des renseignements territoriaux, les RG en fait, nouvelle mouture, change de nom régulièrement, a été relayée par toutes les rédactions. Une note confidentielle relayée par toutes les rédactions. On a vu mieux dans la confidentialité. Des policiers sont interviewés, comme par exemple vendredi 5 septembre sur France Info, à propos des désirs du ravi de Vendée qui triche à Interville, qui nous sert de ministre de l'Intérieur. Ah oui, alors revenons à la note. La note à tous les préfets. Eh bien, la note à tous les préfets indique que la violence de l'initiative, c'est-à-dire rendre à la population le contrôle de son temps et donc de sa vie, appelle forcément une violence de ceux qui font semblant de nous représenter, car ils veulent garder leur peau au petit pouvoir de nuisance et surtout leur capacité à accumuler encore du pouvoir, encore du profit, devenir le plus riche du cimetière. À quoi ça peut bien servir? L'égocentrisme et l'égoïsme de ces personnes les amènent à marteler que nous avons absolument besoin d'eux pour organiser la production de ce dont nous avons besoin pour vivre. Eh ouais, parce qu'on ne saurait pas le faire. Aussi, le tricheur d'Interville, ça donne quand même une petite idée de la mentalité du personnage, a produit une note au préfet pour leur demander d'être ferme le 10 septembre. En l'occurrence, tabassa tout va. Faites attention. Oui, parce que des humains en uniforme sont assez bien payés pour violenter d'autres êtres humains quand ces derniers vont à l'encontre des désirs des puissants. Et comme ils sont au service des puissants, la note fait état de menaces bien réelles. Entendez, des menace contre l'ordre établi par les tenants de la ploutocratie. Plus t'es riche, mieux c'est. Ah ouais, et ça leur fait pas plaisir quand d'autres personnes auraient un agenda, en l'occurrence la population. Des menaces bien réelles, comme avec les frères musulmans. On se souviendra de Michel Alliot-Marie, qui voyait de l'ultra-gauche partout dans les années 2000. On est dans le même registre. Faire peur à ceux qui, depuis toujours, croient vraiment que nos représentants font du mieux qu'ils peuvent au nom de l'intérêt général. On voit aussi que M. Retailleau soutient, lui, l'extrême droite, sans faillir. On l'a vu avec le collectif identitaire Némésis. On l'a vu dans ses déclarations sur l'antisémitisme qui est résiduel à droite, qui vient de la gauche. Ouais, qui vient de la gauche et des musulmans. Ah ben d'ailleurs, le RN, il est dans l'arc républicain. Ouais, tout va bien. Voilà à quoi on est soumis jour après jour, heure après heure, plateau de télé après plateau de télé. Eh oui, forcément, ça laisse des traces. On voit aussi que M. Retailleau soutient l'extrême droite dans la minimisation des crimes racistes, où le racisme est rarement mentionné. Son ambition en bandoulière, devenir calife à la place du calife, il n'a que faire des dégâts collatéraux. En l'occurrence, les dégâts collatéraux, c'est les libertés publiques, la vie des ressources humaines et la démocratie. La vraie, hein, pas la démocratie représentative, dont le nom est en fait la démagogie. Et pourtant, ça commençait bien pour les tenants du pouvoir quand a été annoncée l'idée qu'il y avait un mouvement le 10 septembre. Et oui, il y a eu son moment facho, puisque la première occurrence émanerait d'un groupe appelé les Essentiels, bien à droite et bien anti-franc-maçon. Et badaboum, ça prend pas. Rapidement, les relais du mouvement de blocage du 10 septembre, en juillet, en août, affichent des visuels où on trouve des mots comme « solidarité », des expressions comme « maison du peuple », »,« assemblée générale », »,« un seul peuple contre le système qui nous écrase », avec des gens qui ne ressemblent pas tous à un Français comme l'aimerait Charles Maurras et le reste de l'extrême droite. Bon, bah à moins de faf qui noyote en faisant la même chose que les fameux frères musulmans, la taquilla, je fais semblant d'eux. Donc, à moins que ce soit des faf qui noyotent à la manière des frères musulmans, que leur avis déjà cité voit partout, on peut se dire que le mouvement est passé de l'autre côté. Ouais, c'est moins l'extrême droite que l'extrême gauche, en tout cas la gauche, qui propose une alternative. Tiens, par exemple, la démocratie. Même pas besoin de dire direct, la démocratie. Pour une chronologie du 10 septembre, je vous recommande d'aller voir sur le site de l'excellent média drômois Ricochet, ricochet au pluriel, .cc. Mais le pouvoir n'a pas dit son dernier mot. Et cette semaine, par exemple, un certain Bruno Bartocchetti du syndicat Unité Police est intervenu pendant de longues minutes sur France Info. On va s'en faire un extrait.
On est sur un mouvement, alors je ne suis pas un spécialiste de la politique, mais on est sur un mouvement d'ultra-gauche où la violence s'installe et la volonté, c'est plus de casser que de se faire entendre, finalement. C'est ça, en fait, qui est à retenir.
Donc, ultra-gauche, aucun doute là-dessus. C'est ce qu'évoque effectivement aussi le ministre de l'Intérieur.
Très peu de doutes là-dessus. La volonté, c'est de pouvoir faire son jour férié pour eux, et ils ont choisi le 10 septembre, et c'est ainsi que ça va se dérouler, c'est-à-dire qu'il va falloir intervenir très très rapidement. Ce qui est à souligner, ce qui est important, c'est que bien sûr que nous ferons notre travail, parce qu'on respecte les manifestations lorsqu'elles sont encadrées. Je pense à toutes les confédérations, ils ont leur service d'ordre, tandis que là, on n'est pas sur des manifestations, on est sur des groupes, il n'y a pas de colonne vertébrale, on est sur des groupes, chacun y va de son idée pour finalement créer le débordement. Donc on est dans des violences urbaines préparées et certainement pas des manifestations.
Alors vous dites Bruno Bartosetti, vous qui êtes policier, que le mouvement des Gilets jaunes avait en quelque sorte dérivé vers la violence, mais que là ça peut être pire, c'est-à-dire violent tout de suite.
Je le crois ainsi, je crois que ça peut être, c'est pour cette raison qu'il faut intervenir très rapidement.
Oui, alors bon, bah, les croyances de M. Bartolcetti, finalement, on s'en fout. Vous avez entendu la fausse naïveté au début? Les politiques, j'y comprends rien, mais oh, c'est l'ultra-gauche. Et si vous êtes un petit peu sceptique, bah, le journaliste rajoute que le ministre de l'Intérieur, dont nous venons de brosser l'idéologie, est d'accord. Ah bah du coup, ça en rajoute. Et ça rajoute forcément de la légitimité aux propos du syndicaliste des forces de l'ordre. Le journaliste reprend le propos et il le dramatise en plus. Et enfin, M. Bartolcetti, représentant syndical des forces de l'ordre, indique que ce qu'il croit est le réel. Ce qu'il croit n'est pas forcément le réel. Et d'ailleurs, le 10 septembre n'est pas encore passé. Bon, pour les étudiants en journalisme qui nous écoutent, ce que l'on vient d'entendre s'appelle servir la soupe. Laisser dérouler l'intervenant, renchérir sur son propos et ne jamais porter de contradiction, ni même mitiger son propos. Alors, il continue, hein, M. Bartolcetti, et là, il va réécrire l'histoire sur les Gilets jaunes. Bah, au début, c'était bien. On lui rappellera quand même que l'acte 3 des Gilets jaunes, début décembre, est marqué par l'envahissement de l'Arc de Triomphe, l'incendie de la préfecture du Puy-en-Velay, etc. Bon, bah, là encore, l'analyse du journaliste, du syndicaliste, pardon, continue, ça devient le réel dans son propos, sans que le journalisme ne le reprenne. On notera également, alors dans le second extrait, il y avait l'idée que les confédérations syndicales sont dirigées par des hommes responsables. Ça, dans la tête de l'intervenant, ça montre un peu qui il est aussi. Ben, c'est pas le cas dans le réel. La CFDT, la CGT, les deux confédérations syndicales les plus représentatives en France, les secrétaires généraux sont des femmes. Donc je vous conseille de le réécouter, M. Bartolcetti, hein, ça se trouve sur le site de France Info, c'est fantastique. De même, on comprend, d'après ce qu'il dit, que de par son métier, la hiérarchie est intrinsèque à la pensée de l'intervenant. Et donc, des hommes dirigent, décident et la base obéit. Ouais, pas des femmes, faut pas exagérer non plus. Hein. C'est descendant. Pour lui, il faut que ça soit descendant. Il aura donc beaucoup de mal à appréhender l'organisation, notamment des syndicats ouvriers. Dans la CGT, chaque syndicat est libre d'agir, de s'associer à un mouvement, de déclarer une grève dans sa boîte ou son lieu d'action. Alors assimiler le concept de démocratie, imaginez, pour lui, la seule démocratie, la directe, hein, où la population agit et donne un mandat révocable à des personnes simplement pour organiser une activité ou une action, sans que le désigné ne soit le chef. Mais qui est le chef? Ouais, ça me fait penser aux journalistes quand ils arrivent sur un mouvement et qu'ils disent qui est le représentant, qui est le chef? Des fois, il n'y en a pas. Et là, ils sont tout perdus. On sent bien que ça passe pas. Que ça passe pas pour M. Bartolcetti, que ça lui passe très très loin du ciboulot. C'est d'ailleurs pourquoi l'intervenant est un très bon élément pour nos soi-disant représentants. Et pourtant, c'est l'essence même du mouvement du 10 septembre. Si l'idée est de remplacer des chefs par d'autres, on ne fait que changer de maître. Un mouvement qui prend de l'ampleur et surtout s'organise avant d'agir. On notera les réseaux sociaux qui s'appuient sur la nécessité de nourrir le mouvement, par exemple pour durer, avec une carte sur les greniers des soulèvements de la terre, les réseaux de ravitaillement des luttes. Et il est indiqué, prenez contact avec ces réseaux. Pourquoi faire? Pour s'organiser. Parce que de fait, il y a l'idée de durer après le 10 septembre. Donc plein de canaux d'information différents, le site indignons-nous.fr, des boucles WhatsApp locales, du bouche à oreille, des groupes affinitaires, les sites des syndicats. Non, pas celui de la CFDT, c'est pas la peine. Alors du coup, nous on vous conseille de vous renseigner pour savoir ce qui se passe, de ne pas trop écouter ceux qui vous indiquent que ça va être la Seconde Guerre mondiale. Ah non, elle est déjà passée. La Troisième Guerre mondiale. Faites quand même attention à vous, puisque vu qu'il y a des forces de l'ordre et qu'on leur donne toute latitude pour agir, forcément, il va y avoir de la violence. Donc faites attention à vous, il y a des sites, il y a des choses. Mais on vous conseille de participer parce que des chances, on n'en aura peut-être pas beaucoup. En fait, on voulait vous parler des municipales, mais on le fera la semaine prochaine. On a plein de trucs à vous dire. Et en attendant de se retrouver, sur un blocage quelconque le mercredi 10 septembre, on vous dit tout simplement, allez, au revoir.